Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un grand, grand moment de cette foire du livre, puisque c'est un plaisir de recevoir le lauréat du prix des lecteurs de la ville de Brive, Guillaume Cyr, qui nous fait donc l'honneur cette année et qui a été élu. Alors, je vais vous le présenter en quelques mots. Il est né à Toulouse en 1985. Il a fait des études de maths et d'économie. Enseignant à l'université, il est également poète, nouvelliste ou essayiste. Il a écrit plusieurs romans et a été repéré, notamment pour le premier, par Denis Tillinac pour Les Confessions d'un funambule où la lumière s'effondre. Il a également écrit le roman Réel ou Contrefort, qui est son tout dernier, enfin pas le dernier évidemment, le dernier du moment. Et vous avez été séduit par celui qui s'appelle « Avant la longue flamme rouge » aux éditions Kalman-Lévy, qui a aussi obtenu le prix Orange et le prix Chadourne. Donc voilà, et ce roman-là, ben, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore lu parmi vous, il nous emporte au Cambodge à la rencontre de Sarah Wood, qui a 11 ans, qui grandit dans une famille pleine d'amour, mais un jour, tout explose à cause de la guerre qui éclate et Phnom Penh est pris d'assaut. Seul au monde, ce petit héros devra apprendre à survivre. Alors à mes côtés également, vous le voyez, il y a plusieurs invités qui vont vous dire quelques mots et nous parler de ce prix. Allez-y.
Bonsoir à tous. Moi, je suis Claire Boyer, la directrice de la médiathèque. Et donc le prix, c'est sa 15e édition cette année. Il est préparé, on va dire, avec toute une équipe de bibliothécaires. Je ne vais pas citer tous les noms parce qu'ils sont assez nombreux, mais je les remercie de leur implication parce qu'on lit énormément de romans français entre le mois de novembre et la fin avril, à peu près une soixantaine, où on doit en choisir que 10, donc des romans français ou de langue française, pour ensuite pouvoir faire un appel à candidature de lecteurs adultes où on en retient 20 et ensuite on met en place des débats et c'est à eux ensuite d'échanger, d'argumenter pour n'en retenir qu'un. Et effectivement l'année dernière ça a été assez intéressant de voir quels étaient les avis, les idées, les arguments des uns et des autres pour effectivement n'en choisir qu'un, parce que la difficulté c'est de ne retenir qu'un livre. À chaque fois, il y a une hésitation entre deux. Donc voilà. L'année dernière, c'était une configuration un peu spéciale parce qu'avec le confinement, on a fait un jury qu'à 10 personnes au lieu de 20. Mais c'était tout aussi enrichissant, je pense, pour toutes les personnes qui y ont participé. Voilà.
C'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Lescure, je suis l'adjoint à la culture de la ville de Brive et je représente ici notre maire Frédéric Soulier. Puis je suis aussi conseiller départemental, toujours en charge de la culture. Quelques mots d'abord pour féliciter l'auteur. J'ai déjà eu l'occasion hier soir, puisque vous êtes, je pense, un des auteurs, peut-être même un des rares auteurs à avoir deux prix au cours du même week-end à la Foire du Livre. Donc je crois que ça mérite quelques applaudissements. Cette double distinction qui, je crois, a beaucoup de sens. En tout cas, pour nous, Ville de Brive, elle a un sens particulier. Vous l'avez dit hier, et je le reprends aujourd'hui, vous êtes quelqu'un ancré dans le territoire, dans nos territoires, que ce soit Toulouse ou ici Brive, et je crois que ça vous fait particulièrement plaisir de recevoir ces distinctions des lecteurs de la ville de Brive, hier des amis de l'association Chadourne, ça a du sens. Et pour nous, ville de Brive, pour nous, collectivité locale, c'est aussi très important, grâce à nos lecteurs, grâce aux bibliothèques et à tous les services qui y sont associés, et grâce au commissaire à la Foire du Livre, c'est important aussi de reconnaître et de distinguer des auteurs qui finalement nous sont proches, et les lecteurs vous le témoignent. Donc merci infiniment pour vos ouvrages, et merci pour la lecture que vous nous offrez. Et puis je remercie aussi notre partenaire, qui va dire un mot dans quelques instants, qui parraine ce prix. Merci à toutes et à tous.
Merci, c'est à vous.
Bien, Bonjour, donc effectivement Guillaume Gros, j'ai le plaisir d'être ici pour représenter la société Suez. Alors je vais dire une phrase sur Suez, parce que le but c'est de parler quand même d'abord du livre bien sûr. Suez c'est un groupe donc, de services à l'environnement, donc dans les secteurs de l'eau et des déchets. Voilà, on est partenaire de la Foire du Livre depuis 2016, donc c'est toujours un plaisir. Moi à titre personnel, effectivement c'est la troisième année que j'ai le plaisir de mettre le prix, donc c'est toujours un moment important, un moment particulier. Et voilà, chaque année, c'est un petit peu le passage obligé, parce qu'en fait, il y a trois semaines, on nous dit, tel livre a été primé, donc ça fait partie du boulot d'acheter le livre. Et je dois dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Voilà, c'est vraiment un livre qui est très puissant, très intense, une histoire très, très intense, très réelle, en fait, j'ai trouvé. Enfin, beaucoup de réalité, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail de recherche, de détails géographiques, historiques, etc. Et puis voilà, puis même à titre personnel, moi ça m'a replongé dans des voyages que j'ai fait au Cambodge, etc., à Phnom Penh. Donc voilà, j'ai pris du plaisir pour le livre et aussi pour tout ce qu'il a évoqué pour moi. Donc merci pour ces beaux moments de lecture et surtout félicitations.
Merci à tous. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va entendre l'heureux élu du jour. Guillaume Cyr, j'aimerais d'abord vous demander, petit garçon, est-ce que vous aviez un royaume, à savoir un pays que vous aviez construit à l'intérieur de votre tête ?
Alors, si vous voulez bien, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord vous remercier.
Bien sûr.
Tous, parce que ça me touche infiniment. Ça me touche... pour mille raisons, je dis les principales. D'abord, ça me touche parce que c'est un prix des lecteurs et on écrit pour des lecteurs. Beaucoup de prix sont parfois donnés par des auteurs qui, du coup, ont les deux casquettes. Mais là, pour moi, c'est très important de me dire qu'au bout, il y a des lecteurs. J'y pense sans cesse quand j'écris. On y pense parce que c'est un travail qui est d'abord solitaire et puis ensuite collectif. Mon éditrice, Lisa Liotto, est là et ce livre lui doit beaucoup à nos échanges. Et on pense toujours, et on pense ensemble aussi, donc on en parle, mais en même temps, on les imagine et on espère avoir raison quand on y pense et qu'on les imagine. On pense aux lecteurs. Et tout d'un coup, avoir un prix des lecteurs qui vient comme ça, c'est très touchant, très émouvant, parce qu'on se dit qu'on a réussi ça. Et depuis le départ, l'objectif, c'était ça. L'art, c'est quelque chose qui est adressé. Et cette adresse, elle doit aller quelque part. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'elle a touché quelqu'un au bout. Et c'était pour moi très important. Ensuite, c'est très important pour une deuxième raison. Et je vous réponds à votre question.
À votre aise.
C'est très important pour moi pour une deuxième raison. C'est parce qu'ici, c'est Brive. Et je pense que Brive, plus encore que Saint-Germain-des-Prés, c'est le lieu de la littérature. C'est un lieu qui a su se poser comme un lieu de l'être. D'ailleurs, on le voit même dans le nom. Moi, je crois que la littérature est plus une foire qu'un salon. Je pense qu'il y a une énergie dans le mot foire qu'il n'y a pas dans le mot salon. Vous savez que dans beaucoup de villes, et c'est très bien, et on peut le décrire comme ça, on appelle ça salon. Je pense que ce mot n'est pas assez énergique, en tout cas pour décrire le rapport que moi j'ai, en tant que lecteur et en tant qu'auteur, à la littérature. Et je suis vraiment très heureux de que ce soit à Brive et les lecteurs de Brive qui me remettent ce prix. Et donc, merci à la ville de Brive, merci à Suez, dont le mot, si on le lit dans l'autre sens, donne Zeus, qui est un personnage important du roman. Merci à la médiathèque et aux lecteurs. Donc oui, ce roman, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui en ont entendu parler... Je voulais éviter le vocabulaire psychologique et donc mon héros a, comme moi et comme je pense tous les lecteurs, un royaume intérieur. Et nourri par les lectures, son royaume intérieur est peuplé de lieux, de sensations, de personnages, de figures, d'ambiances qui viennent davantage des livres que de ce qu'il a vécu dans le monde réel qu'il appelle l'empire extérieur. Et il passe de l'un à l'autre. Moi-même, j'ai l'impression que grâce à la lecture et à l'art en général, parce que c'est vrai aussi de la musique ou de la peinture, en permanence, c'est un va-et-vient entre le monde qui m'entoure et mon monde intime, qui est pour moi le plus grand mystère et qui est un mystère lié au monde qui m'entoure. Et je voulais trouver une manière colorée, une manière juste, imagée, poétique, et non pas psychologique, justement pas clinique, de décrire, de montrer, de faire voir et sentir ce monde intérieur, celui de l'âme et du ventre. Et c'est pour ça que nous avons créé, enfin parce que ça a été long et c'est aussi le fruit de ces discussions, le royaume intérieur de Sarah.
Ce que vous partagez également avec votre héros, c'est le sens de la famille qui est très présente dans sa vie à lui, mais également la vôtre, puisque j'aimerais qu'on dise peut-être un petit mot aussi sur les contreforts que vous dédiez à vos parents. Est-ce que ce sont eux qui vous ont transmis l'amour des mots ?
Eh bien, en fait, moi je crois que le langage n'est pas un moyen, je pense que c'est un pays. Et le langage est transmis d'abord par les parents. Tous ceux qui ont eu des enfants le savent. Il y a un moment où les enfants se mettent à apprendre des nouveaux mots pour décrire le monde qui les entoure à une vitesse extraordinaire que nous, on n'aurait jamais si on apprenait une nouvelle langue à notre âge. À mon âge maintenant, si j'apprends une langue que je ne connais pas, je ne peux pas engranger les mots à la même vitesse qu'un enfant. Il y a une fièvre que j'appelle adamique, parce que c'est justement l'idée de celui qui nomme. Et nommer quelque chose, c'est lui donner un sens, mais c'est le faire exister aussi. En soi, autour de soi. Et les parents transmettent ça. Et la famille, c'est le lieu. Hélas, de temps en temps, ça se passe mal. Et les mots qui sont transmis sont des mots violents, des mots d'insultes. Donc, évidemment, la famille n'est pas toujours un paradis. La mienne l'a été. Et on m'a transmis. C'est pour ça que quand vous dites l'amour des mots, je ne sais pas, parce qu'il y a certains mots que je déteste. Hein. Il y a certains mots qui sont haïssables, mais qui font partie justement du langage, qui sont là aussi. Parce que la vérité n'est pas que belle, elle n'est pas qu'amoureuse, et la famille en tout cas est le lieu de la transmission, y compris de ces mots-là, des mots durs. Et c'est pour ça que je suis très attaché aux liens familiaux, que j'en parle beaucoup dans mon dernier roman Les Contreforts, et dans mon roman Avant la longue flamme rouge, un roman Avant la longue flamme rouge où le héros cherche ses parents, ceux qui lui ont donné le langage, et où il est comme Télémaque. Vous savez que l'Odyssée commence avec un enfant qui cherche à son père qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, et un roman, mon dernier, Les Contreforts, où c'est l'inverse, on est plus du côté de Aîné qui a fui la guerre de Troie et qui porte ses parents sur le dos. Et donc mes héros dans mon nouveau roman Les Contreforts, ce sont des gens qui sont avec leurs parents et qui essayent d'assumer ce qui a été transmis jusqu'au bout, quitte à tout perdre. Et donc pour moi, je pense que c'est très important, et je pense aussi que c'est un lieu de littérature et de narration magnifique à explorer, que je n'ai pas encore tout à fait fini d'explorer.
Ce que vous explorez également à travers vos livres, c'est le réel. Pourquoi est-ce qu'il vous inspire, qu'il soit proche ou très loin de vous ?
Donc le rapport au réel, là aussi j'en parle beaucoup avec mon éditrice Lisa Liotto. Le langage, c'est à la fois ce qui nous connecte au réel, ce qui nous permet de le nommer, de le faire exister. Et en même temps, c'est ce qui nous en sépare, parce qu'un mot, c'est toujours une traduction et donc une trahison. Enfin, il y a quelque chose qui se perd dans le lien. Chez Sarah Voûte, ce lien-là est manifesté par des cordes sur lesquelles il tire. Et le mot est une corde sur laquelle il tire et qui ramène la réalité à lui. Et à un moment, il cherche dans la forêt ses parents et il dit « Papa, papa », il appelle son père, il appelle sa sœur, Kana, Kana. Et en même temps, il refuse d'appeler maman parce qu'il dit que ce serait trop grave qu'au bout de ce mot-là, il n'y ait pas la réalité que c'est censé me ramener. Donc, je suis fasciné par le fait que la littérature en général, les histoires, les contreforts, là, mon dernier roman qui est dans un château fort, tout d'un coup, en décrivant ce château fort, je le fais exister et en même temps, je l'empêche aussi. C'est les deux à la fois. Et donc, moi, mes romans ne sont pas discursifs, je n'explique pas tout ça, là je vous donne les coulisses. Mes romans, c'est des histoires d'abord. Mais une histoire, c'est toujours aussi un mensonge, même quand c'est tiré d'une histoire vraie. Et en permanence, je suis pris là-dedans. Ça me fascine et ça m'équipe aussi. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est très important.
Il y a aussi la grande histoire qui est présente dans ce roman. Vous écrivez d'ailleurs que tout le monde a oublié la guerre civile de 1969 à 1975, même les historiens, donc celle qui a ravagé le Cambodge. En quoi est-ce que justement les écrivains peuvent restituer et incarner l'histoire autrement ?
Eh bien, quand on lit un livre d'histoire d'un historien, et c'est très bien que ça existe, hein, évidemment, mais c'est pas ce que je fais. Tout est expliqué. On vous dit les communistes étaient au nord, les républicains au sud, ils se sont battus dans telle ville, pour telle raison, le combat a duré tant de jours, il y a eu tant de morts. Mais évidemment, sur le moment, vous imaginez tous, et j'espère que vous l'imaginez pas trop non plus, mais c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ça tire dans tous les sens, il y a des balles perdues, on entend que ça claque derrière des palmiers, on ne comprend pas pourquoi le voisin tout d'un coup n'est plus là, et on se dit, peut-être qu'il est allé acheter de la farine, ou alors peut-être qu'il est allé chercher une arme pour me coller une balle entre les yeux, enfin on ne sait pas en fait. On a peur, on est inquiet, tout est ambigu, tout devient ambigu. Et le travail du romancier, au revers de celui de l'historien, c'est de rendre et de nourrir cette ambiguïté. Et cette ambiguïté-là, en plus, elle est toujours actuelle. Elle n'est jamais historique, elle n'est jamais passée. Cette ambiguïté qui a créé la guerre civile du Cambodge, elle existe encore parmi nous et il faut s'en méfier parce qu'elle peut dériver toujours. Et le romancier vient la chercher... non pas dans les faits factuellement comme l'historien, en comptant les morts, mais en disant les cris de ceux qui peut-être sont morts. Et évidemment, quand on est lucide et rationnel, on ne va pas vérifier s'ils sont morts ou pas, on se barre en courant dans l'autre sens, sans aller voir si c'est les communistes ou les républicains qui ont tiré. Et il faut aussi, dans ce qu'on appelle parfois le devoir de mémoire, pour rendre notre devoir à la mémoire, pour lui rendre justice, il faut aussi... garder souvenir de cette ambiguïté-là, de cette peur inexplicable qui, à travers les yeux d'un enfant, dans le cas de Sarah Voot, est évidemment impossible à expliquer.
Il y a justement aussi ce que les historiens ne font pas. Ils nous racontent l'histoire à travers les grands hommes, à travers les grands événements, mais il y a toutes les petites gens qui les vivent dans leur chair. Là, vous nous le montrez à hauteur d'enfant, puisque ce roman se base sur un homme qui a réellement existé. Le personnage Sarah Voot n'est pas entièrement sorti de l'imaginaire de Guillaume. Parlez-nous de cet homme, comment vous l'avez rencontré et pourquoi il vous a marqué à ce point-là, au point d'en faire un roman, voire une odyssée.
Alors, j'étais étudiant au Canada et évidemment pour moi, ça c'est plus difficile encore de parler de cet homme-là que du roman parce que c'est un homme qui est mort et maintenant et que j'ai beaucoup aimé, mais... donc j'avais dans mon quartier un homme qui jouait de la guitare. Il était, pour lui c'était très important de dire je ne mendie pas, je ne suis pas mendiant, je joue de la guitare et si les gens ça leur plaît ils me donnent de l'argent, mais du coup je travaille en fait et je ne leur demande pas de m'en donner, ils m'en donnent s'ils veulent. Et il avait une marque très impressionnante au-dessus de l'oreille. Alors il était toujours très bien habillé, très bien coiffé, ça aussi c'était important pour lui. Et il avait pris une balle dans la tête, hein, c'est vrai. Il a reçu 4 balles dans le corps et il avait entre 19 et 23 éclats d'obus encore, quand je l'ai connu, dans les moelles. Parce que les éclats d'obus, soit ça s'infecte et dans ce cas-là, le corps rejette, soit ça s'adapte et dans ce cas-là, il l'envoie vers les moelles. Donc ça le faisait terriblement souffrir. Et en même temps, il était très cultivé. Cet homme a été deuxième fauteuil de l'Orchestre symphonique du New Jersey. En violoncelle, il a été dans les 100 meilleurs joueurs d'échecs du monde. Il a fait une thèse sur Joyce, qui était assez mauvaise à mon avis d'ailleurs, mais pour ça peu importe. Il était passionnant à écouter sur la mythologie justement, sur le bouddhisme Theravada qui est le bouddhisme Khmer. Et moi à cette époque-là, je connaissais Denis Tillinac, qui avait publié mon premier roman, et je me disais, il faudrait qu'un jour j'écrive cette histoire, mais je ne me sentais pas armé. Nous sommes des artisans, nous les auteurs, et il nous faut de la technique, et je ne me sentais pas armé techniquement. J'ai essayé, d'ailleurs quand je dis je ne me sentais pas, c'est que j'ai essayé, et ça ne marchait pas, d'écrire cette histoire, mais j'étais pas... Donc il a fallu que j'en écrive d'autres aussi, pour avoir un moment les moyens techniques de rendre justice à la vérité de cette histoire, plus qu'à la vérité factuelle, parce que lui-même, en fait... Lui, il avait oublié le Khmer. La langue est aussi un appareil enregistreur. Et quand on oublie sa langue dans laquelle on a enregistré les souvenirs, on perd les souvenirs, y compris le nom de sa mère, parfois, ou de son frère et de sa sœur. Donc il y avait beaucoup de trous dans sa mémoire. Donc soit je faisais un récit en racontant ce qu'il m'avait dit, et je ne serais pas là, je pense, aujourd'hui, devant vous,
soit je redigérais tout pour en faire un roman qui rende justice à ce qu'était cette histoire-là, la recherche de ses parents, la peur. Et il a fallu aussi que je digère tout et que j'ai le niveau technique de l'écrire. Donc ça a pris 13 ans exactement. Et aussi, il me fallait quelqu'un pour m'aider à travailler. Donc ça a été très important de travailler avec Lisa pour ça.
Vous le disiez là tout à l'heure, vous, au cours de vos voyages, vous êtes parti au Cambodge. C'est également votre cas. Vous parliez de la vérité de l'histoire. Pourquoi c'était important d'aller l'approcher en se rendant dans ce pays et en y allant? Est-ce que vous diriez que vous ressentez encore les stigmates de cette guerre auprès des gens?
Alors, hélas, ma réponse à cette question est non. On ne ressent pas les stigmates de cette guerre auprès des gens, car cette guerre a duré entre 69 et 75. C'était une guerre civile terrible, mais ensuite la paix a été bien pire, puisqu'en 75, les Khmers rouges ont gagné cette guerre civile, et pendant en 4 ans, ils ont tué un quart de la population. Et du coup, les gens ont même oublié la guerre civile, parce qu'ils ont tellement été traumatisés par ce qui s'est passé après, que tout a été perdu, et donc on ressent les stigmates de quelque chose là-bas, très fort, qui n'est pas la guerre civile. Qui est bien cette période de paix assassine qui a été celle de Pol Pot. Et donc la mémoire de ça est quand même perdue, y compris physiquement, parce que graphiquement, je veux dire toponiquement, topographiquement. Pourquoi? Parce que quand les Vietnamiens ont débarqué Pol Pot en 79, donc le pays a été libéré, mais bon, comme la Pologne a été libérée par Staline, si vous voulez, le pays a été libéré par les Vietnamiens communistes, et les Vietnamiens ont transformé le pays en grenier à grains, donc ils ont tout transformé en rizière. Donc les lieux où se passe mon roman, aujourd'hui, ce sont des rizières à perte de vue qui ne ressemblent en rien à ce que Sarah Voûte m'a décrit. Et donc heureusement, là-bas, j'étais avec des botanistes qui m'ont emmené plus loin sur les flancs des cardamomes, où là, la végétation ressemble aujourd'hui à ce, sans doute, à quoi elle ressemblait au bord du Tonlé Sap, où il n'y a plus que des rizières, à l'époque, donc en 1970. Donc vous voyez, la mémoire est perdue dans les esprits, mais elle est même perdue dans les paysages, quoi. C'est vraiment un moment de l'histoire du Cambodge effacé.
Alors Sarah Voûte, on le découvre dans un premier temps enfant, on le voit grandir au fil des pages. Qu'est-ce qu'il comprend de ce monde-là, de ce chaos, de cette guerre à sa hauteur d'enfant? Et en quoi est-ce que son histoire nous renvoie à la fragilité de nos existences qui peuvent basculer à tout instant?
Alors un enfant ne comprend rien à la guerre et donc il a raison. Parce que évidemment c'est incompréhensible, vous pouvez donner toutes les justifications du monde à Télémaque pour lui expliquer pourquoi son père n'est plus là depuis 20 ans. C'est inexplicable, en fait. C'est pas possible d'expliquer ça à un enfant. Et donc, pour expliquer une guerre, le voir par les yeux d'un enfant, c'est bon parce que ça permet de ne rien justifier, quoi. Justement, de ne rien avoir l'air d'expliquer. Ensuite, je pense aussi, du point de vue technique, que le point de vue par l'enfant à cela de magnifique que quand on est un lecteur et qu'on ouvre un livre, même si ça ne raconte pas du tout l'histoire d'un enfant, au moins pendant les premières pages, 3, 4, 10 pages, on est un enfant, c'est-à-dire on accepte tout, on s'étonne, on se dit alors ils sont où les personnages, qui va être important, on regarde, vous voyez comme les enfants quand ils rentrent dans un nouveau lieu, en disant je vais aller où, ils sont où les jouets, mais donc on a ça. Et le but dans le roman, techniquement, si on le prend par un enfant, c'est de maintenir cet esprit de surprise tout le long du roman. Et donc ça permet, en voyant par les yeux d'un enfant, de prendre tout ça. Ensuite, toujours pour répondre à votre question, le regard par l'enfant qui se sent abandonné. En fait, tous les grands mythes, et j'ai beaucoup joué avec ça dans Avant la longue flamme rouge, je crois, moi, c'est une théorie personnelle peut-être discutable, que toutes les grandes histoires de la littérature racontent la même histoire, l'histoire d'enfants qui se sentent abandonnés par leurs parents. Si vous prenez évidemment, donc, je l'ai dit, l'Odyssée, l'Iliade, si vous prenez l'Évangile qui est quand même central dans l'histoire de notre culture, avec ce moment maximum de l'incarnation qui est le Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si vous prenez dans le bouddhisme Theravada, les histoires que je raconte dans ce roman des enfants du Bouddha qui se sentent abandonnés au Brahman, si vous prenez Œdipe est abandonné par ses parents pour des histoires d'oracle, Antigone se sent abandonné, enfin, en fait ils se sentent tous abandonnés, et la littérature c'est peut-être aussi ce cri là, évidemment Peter Pan, hein, les enfants perdus, la littérature est souvent ce cri là de l'enfant abandonné, et puis Proust, capital dans notre littérature, dont la magnifique recherche commence avec l'enfant dans la chambre qui ne comprend pas pourquoi sa mère doit partir et dire bonne nuit et retourner avec les adultes, il dit mais reste là, il est prêt à tout pour lui dire de rester là, et il se sent abandonné, et la recherche du temps perdu commence comme ça, ce qui moi me bouleverse, hein. Et je pense que du coup avec cet enfant et cette incompréhension face à la guerre, je pouvais aussi moi-même apporter mon humble pierre, bien sûr, mais moi-même aller trouver ces codes-là, ces mythes-là à ma façon.
Vous estimez dans le livre que la guerre coupe véritablement le cordon entre l'être et l'humain. En quoi est-ce que vous diriez que Sarah Wood, celui que vous avez à la fois rencontré et puis celui que vous avez imaginé, parvient à rester humain malgré toutes ces épreuves ?
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire être humain, hélas, mais je ressens ce que ça veut dire, mais je ne peux pas trop l'expliquer. Mais bon, bah, Sarah Wood... Le problème, c'est que cette vie intérieure, donc la guerre vient, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il perd ses parents, et il a son royaume intérieur, et il se dit, je peux survivre grâce à mon royaume intérieur, je peux m'y réfugier dans mes rêves. Et en fait, c'est faux, ça. C'est très joli de dire ça, mais en fait, quand c'est la guerre, que vous avez faim, et que vous avez peur, et que vous risquez de vous prendre une balle, vous avez beau avoir un très beau royaume intérieur, le royaume intérieur... a besoin de l'empire extérieur et d'un aller-retour entre l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas être confortablement installé à trois alors qu'il y a des gens qui tambourinent à la porte pour tout casser. Et c'est l'idée que la vie intérieure, même très riche, et la littérature, même très belle, et je suis désolé de le dire, mais ne sauve rien. En revanche, donc elle ne rend pas les choses... vous voyez, elle ne rend pas les choses... plus supportable, mais elle permet au moins de les nommer, c'est-à-dire de les porter, en fait. Moi, je crois pas qu'elle permet de supporter, mais elle porte, malgré tout. Malgré tout, elle est là, et c'est un miracle. Et peut-être que notre humanité est là, hein, dans ces choses gratuites que donne l'art, et je pense que Sarah Wood, il est, malgré tout ça, resté sensible. Peut-être qu'il aurait moins été s'il avait été adulte, mais son enfance est restée dans une sorte d'étonnement, d'incompréhension face à ce qui lui arrivait, d'immédiateté face aux événements. Il cherche comme ça, alors il m'a beaucoup parlé de ce moment dans le roman, les rives se rapprochent. Pendant la guerre, il a été sur un bateau au milieu du Tonlé Sap, qui est un lac immense, une mer intérieure, et le bateau était au milieu du lac, et là, il n'y avait plus de guerre, en fait. Tout d'un coup, c'était le calme des eaux, vous savez, les eaux calmes du temps d'avant, les âges, et puis les rives se rapprochent, et ça pète sur les rives, voit les lumières la nuit des gens qui combattent, et il sait que le fleuve, le lac, va le rejeter dans la guerre. Et ça, il l'a toujours vu en me disant, ben, tu vois, le lac, c'est l'enfance, et peut-être l'humanité, justement, le principe d'humanité. Et puis à un moment, c'est l'âge adulte et le risque absolu. Et en fait, quelque part, la littérature est quelque part pile entre les deux, en fait. Donc j'espère qu'on sent ça dans le roman.
On parlait des oubliés de la grande histoire dont il fait partie, mais est-ce que vous diriez aussi qu'à travers ce roman, vous souhaitez rendre hommage aux héros oubliés? Je pense notamment à la mission Saint-Joseph où il a été recueilli à un moment donné. Est-ce que c'est aussi une façon de les raviver?
Alors, la mission Saint-Joseph, j'ai réinventé là aussi. Bon, j'ai rencontré plusieurs fois le père Ponchot, qui a été une personne importante de cette guerre civile, puis après de la reconstruction aussi du Cambodge. Tous ces gens qui, dans l'histoire, n'avaient pas beaucoup de voix. Et encore plus que le père Ponchot, je pense à la vieille dame qui a soigné Sarah Wood dans la forêt. Je pense que ces gens-là, voyez cette vieille dame, Sarah Wood m'en a beaucoup parlé, il m'a dit... Yai, donc Yai, ça veut dire la vieille en khmer. Il m'a dit, Yai, elle avait compris que pour soigner quelqu'un, il faut lui faire mal. En fait, tous les médecins le savent, hein, soigner quelqu'un, et puis tous ceux qui ont eu des problèmes graves, ça fait mal. On n'est pas là pour vous cajoler. C'est douloureux, en fait, le soin. Et Yai, psychologiquement et physiquement, elle le guérit. Elle le soigne. Et c'est très violent, en fait. Mais il faut qu'il puisse partir. C'est pas sa mère. Et il ne peut pas rester avec elle. Et il faut qu'il puisse marcher. Et marcher, ça fera peut-être mal maintenant qu'il a pris une balle dans la tête. Mais il faut qu'il avance. Et je crois que l'histoire, quand vous dites la grande histoire, la petite histoire, tous ces petits héros du quotidien, c'est ceux qui ont réussi à être lucides à un moment, à plein d'égards, à plein d'endroits. Les médecins sont un bon exemple, mais parfois c'est simplement un geste qui est à la fois, dans lequel on va à la fois trouver un immense principe de réalité et en même temps une espérance folle et irréaliste. Les deux en même temps, au même endroit, dans le même geste, qui souvent sont des très petits gestes.
Ce qui est étonnant aussi quand on le lit, c'est que, hélas, j'ai envie de dire, ce roman est d'actualité, puisque les guerres se poursuivent à travers le monde. Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire se répète sans cesse ?
Non. Donc j'ai l'impression qu'on a de moins en moins d'excuses, si on a l'impression qu'elles se répètent. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'invariant dans les enfants perdus par les guerres, dans la guerre, etc. Et je pense que pourtant c'est pas une répétition. Je pense qu'il n'y a pas de que c'est pas une fatalité. Et donc je vous dis qu'on a je crois vraiment qu'on a de moins en moins d'excuses.
Vous saisissez toujours vos personnages, j'ai envie de dire, dans un point de rupture entre un monde d'avant, un monde d'après. J'ai envie de dire que c'est presque le fil rouge entre vos différents romans. Pourquoi est-ce que vous aimez les saisir précisément à ce moment-là et qu'est-ce que ça révèle de leur vrai visage, de leur vraie personnalité ?
Vous voulez dire la suture entre l'enfance et l'âge adulte.
Voilà, dans son cas, ou dans le dernier, Les Contreforts, il y a aussi un monde d'avant, un monde d'après, dans Réel également. Pourquoi ce point, justement, de bascule vous intrigue tant ?
Alors, là, par exemple, je peux parler des Contreforts, pour donner un autre exemple. Donc, dans Les Contreforts, vous avez une famille dans un château fort, et vous avez deux enfants, qui ont grandi dans un château fort qui s'écroule, qui est une ruine, leurs parents n'ont rien. Et ils sont virés du château, les gendarmes leur disent de partir parce que le château s'écroule et qu'il n'est plus à eux, parce que financièrement ils n'ont pas tenu le coup. La nature en plus autour se dérègle, il y a des incendies, enfin il faut partir. Et là les parents restent, mais surtout les enfants veulent rester. Et en racontant cette histoire, comme pour les autres, hein, c'est la même chose, je voulais qu'on sente qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir, que c'est foutu, c'est impossible. Mais que la question, dans un monde où tout est impossible, parce que finalement tout est un miracle, les arbres qui poussent, les enfants qui naissent, tout ça est assez miraculeux. La question, c'est dans un monde où tout est impossible, comment est-ce qu'on fait pour quand même se battre, et pourquoi on se bat et à quel point on se bat. Et je pense que vis-à-vis de l'enfance, pour répondre à votre question, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on est enfant, on se dit, l'enfance passera. Moi, peut-être que j'étais un enfant particulier, mais je sentais ça, je le savais déjà. L'enfance passera. Et en même temps, je me suis dit, elle ne sera pas remplacée par quelque chose. C'est-à-dire que ce moment-là, je dois réussir à le transmuter en quelque chose qui va perdurer en un combat au sens large, c'est-à-dire en un geste qui va perdurer, le faire perdurer dans un monde où l'enfance sera devenue impossible. Je dois quand même avoir mon château qui tient debout alors que tout le monde me dit qu'il va s'écrouler. Et je ressentais vraiment ça, et la littérature pour moi a été ce geste qui maintenait un château fort, impossible, dans un monde d'adultes qui est le mien aujourd'hui, et de père en plus, enfin j'ai des enfants. Et c'est pour ça, je pense que, parce que pour moi la littérature c'est ça, quand je raconte une histoire, et mes histoires sont très différentes, Réel c'est sur une héroïne de télé-réalité, dans une qui vient d'une banlieue pavillonnaire d'une ville de province aujourd'hui, Sarah Voûte, avant la longue flamme rouge, au Cambodge dans les années 70, puis là les contreforts dans les Corbières aujourd'hui, les décors sont différents, tout est différent, mais le geste est toujours le même, et le geste c'est toujours ce maintien, et ce maintien coûte que coûte, alors même qu'on sent que c'est inutile, mais ce qui sera beau, vous savez Cyrano, qui pour moi est un modèle de mon héros Léon, de mon dernier roman, Cyrano, il dit, on lui dit, quelle folie ce que tu as fait. Il répond oui, mais quel geste. Et je crois que dans ce quelle folie, oui, mais quel geste, il y a toute l'histoire de la littérature que moi j'aime.
Ce que abordent aussi vos différents livres, évidemment celui-ci en particulier, c'est la question de la survie. Qu'est-ce que ça signifie finalement, survivre et se reconstruire ?
Les questions sont difficiles. Je suis pas certain d'avoir une réponse intelligente à donner, mais je suis pas sûr que ce soit possible. En fait, je pense qu'on n'arrête pas de je suis pas sûr qu'on se reconstruit en fait, mais je pense qu'on apprend à vivre dans les ruines, et que l'histoire de Sarah Wood, c'est ça, c'est de trouver de Je suis assez sensible, moi, aux tableaux, vous voyez, aux gravures de Piranèse ou aux tableaux qui représentent des ruines. Parce que je me dis à un moment que la vérité du bâtiment est là. Et je pense que Sarah Wood, évidemment, les guerres précipitent tout. Hein, les passions se déchaînent. Et à la fin, l'essentiel est là. Et l'essentiel est à la fois très décevant et très beau. Et donc, je pense que plutôt que de reconstruire, on apprend à déambuler dans ces ruines.
Outre les ruines, j'ai envie de dire que la nature est également très importante dans ce livre, également dans le dernier. Vous le disiez, pour celui-ci, vous avez été en contact avec des botanistes qui vous ont permis d'essayer de retrouver les paysages originels de la mémoire de Sarah Wood. Pourquoi la nature est tellement présente dans vos livres ?
Eh bien, donc, je veux que pour moi, d'abord, puisque d'abord je suis seul avec le livre, et ensuite pour les autres, parce que je crois en cette littérature-là, hein, le voyage ne soit pas simplement... Donc, ce qui est capital pour moi, c'est d'abord une histoire qui vous prend, des personnages qui vous attachent, mais ensuite, je veux que le voyage soit sensoriel. Je ne veux pas qu'on referme ce roman en disant j'ai appris plein de choses, ou l'histoire était passionnante, mais qu'on ait sans avoir l'impression d'avoir été au Cambodge. Et quelque part, on y a été, c'est-à-dire notre être s'est placé dans le Cambodge. Et je veux ça. Et donc, je veux qu'on ait des goûts. Vous voyez, au Cambodge, un air qui est compact, très humide, une terre rouge, des fleurs grasses, énormes, magnifiques, angoissantes aussi, une forêt immergée, bon. Les corbières, les ronces, les vents secs, les arbousiers, les chênes verts au tronc noir. Je veux qu'on sente ça. Je veux qu'on abîme le livre quand on le lit, en fait. Je veux qu'on se crispe autour des sensations. Je parle au ventre plus qu'à la tête. Et pour ça, la nature, d'abord, on ne peut pas en faire l'économie, parce qu'elle est toujours là, même dans des mondes très minéralisés, très bétonnés. Elle est là quand même, hein. Elle gratte ou elle vrombit, et pour moi, dans le roman, ça permet de placer la barre aussi à ce que moi j'estime être le niveau indépassable de la littérature, c'est-à-dire d'œuvres d'art, d'œuvres de sensation, pas simplement de témoignage.
Ce roman est construit véritablement comme une traversée. Vous le disiez, vous avez été inspiré notamment par l'Odyssée. Vous écrivez « Il faut trembler pour grandir ». Pourquoi ? Et ça signifie quoi, grandir pour vous ?
Alors, donc, c'est pas moi qui ai écrit cette phrase qui est vraiment très belle. C'est René Char qui dit ça, « Il faut trembler pour grandir », qui pour moi est un des cinq plus grands poètes du XXe siècle. Et je trouve que dans cette phrase, condensée, comme René Char savait le faire, vous voyez, grandir, quand on est un enfant, on a l'impression qu'il suffit de se laisser faire, quoi. Mais en fait, si vous montrez vraiment la réalité de beaucoup d'adultes à des enfants, ils vous diront, mais il n'est pas grand, il est mort, en fait. Il est éteint, quoi. Et pour grandir, c'est-à-dire se déployer, il faut quand même rester disponible. Et disponible, c'est pas simplement disponible à ce qui est beau, quoi. C'est aussi encore une fois, la littérature permet ça parce qu'elle permet de traverser d'autres vies, d'entendre d'autres choses, et elle fait trembler, elle fait peur, quoi. Elle inquiète, elle questionne. Et je pense que tant qu'on reste du côté de la question, on est sauvé, on continue à grandir. Le jour où on va trop du côté de la réponse, et puis puis vous savez que là, en période de présidentielle, on va avoir beaucoup de grandes réponses données partout et par tout le monde, des réponses définitives. Je pense qu'il y a quelque chose de très naïf et enfantin dans la réponse. La question, en fait, c'est le vrai courage est dans la question. Et donc, il faut trembler pour grandir. Il faut se rendre disponible à ce tremblement, à ce vacillement intime pour continuer à grandir. Et Sarah Voûte se le répète sans cesse, y compris dans les pires moments, en disant « mais qu'est-ce qu'elle voulait dire ?» Et vous voyez, cette question, en fait, elle interroge, mais il ne faut pas qu'elle cesse d'interroger. En permanence, Sarah Voûte se dit « ma mère me disait, il faut trembler pour grandir, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire ?» Et le fait même de se dire ça, ça le maintient en vie et ça le fait grandir. Et il la garde comme une question qui l'habite en permanence, il faut trembler pour grandir, mais qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Et il avance avec ça, et je crois qu'il ne faut surtout pas y répondre une fois pour toutes.
Sarah Voûte, il nous fait trembler justement, il nous fait vibrer tout au long de ces pages. Mais ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il incarne un personnage qui ne cesse jamais d'espérer malgré toutes les horreurs qu'il va traverser. Pourquoi est-ce que c'était important d'insuffler cette forme d'espérance, cette forme d'espoir à travers lui et particulièrement en cette époque ?
Vous trouvez qu'il espère beaucoup, Sarah Voûte ? Oui, il veut retrouver ses parents, oui, c'est vrai.
Ben, je trouve que jusqu'au bout, il y a ce petit garçon, peut-être en lui, qui continue d'espérer.
Ben, oui. Alors, en fait, il n'a pas vu ses parents morts. Et donc, quand on n'a pas vu ses parents morts, on ne peut pas accepter qu'ils le soient. On ne peut pas se dire, ah, oui, ils sont quelque part morts, en fait. Non, surtout si soi-même, on a survécu. Donc déjà, ça, c'est un peu un espoir obligé. C'est-à-dire qu'il ne le choisit pas, ça. C'est pas, vous voyez, dans l'espoir, dans l'espérance, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la décision. Je décide d'espérer. Lui, l'espoir lui est imposé par quelque chose. C'est l'absence du corps, quoi. Et quand il y a absence du corps, on ne peut pas ne pas espérer. Donc c'est une obligation à l'espoir, une injonction à l'espoir, quelque part, qui le nourrit. Et cette injonction, peut-être qu'il aurait préféré qu'elle n'existe pas, mais il ne peut pas faire autrement que d'y obéir. Et donc, c'est pour ça que moi-même, je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je vous posais la question. Je pense que, contrairement à d'autres qui espèrent et qui décident d'espérer, Sarah Voûte obéit à un appel à l'espérance en lui qui est absolument impossible à faire taire, quoi. Et donc, il y a une sorte de folie dans son espérance, magnifique, très enfantine et en même temps... très dur parce qu'il va jusqu'au bout de cette folie et il y est allé toute sa vie, hein, y compris quand moi je l'ai connu, qui donne une couleur à l'espérance qui n'est pas forcément celle qu'on attend, je pense, dans le roman.
Toute dernière question en quelques mots, et quelle est la couleur que vous donneriez à l'espérance ?
Elle me cherche.
Ça peut être métaphorique, hein.
Ouais. Je pense que jaune. Non,
pour la couverture du dernier.
Non, je pense qu'il ne faut pas répondre aux questions. Et moi, je suis prof de sociologie des sciences aussi, donc je sais très bien ce qu'est la science. Et la science est une question sans cesse renouvelée. Et je pense que de la même façon. En morale ou en art, hein, et les romanciers, je crois, sont des artistes, et il ne faut jamais cesser de le dire, parce que parfois on les prend trop pour des sociologues. Le salut est dans la question, c'est-à-dire dans le fait même qu'on accepte le mystère. Vous savez, il y avait un roman qui a été oublié, peut-être certains l'ont lu, de André Fregnaud, qui s'appelait « Les étonnements » de Guillaume Francoeur. Et moi, je trouve que ce mot d'étonnement, il est capital, et donc la couleur que je donnerais, c'est ça, c'est des yeux écarquillés, je ne sais pas si c'est une couleur des yeux écarquillés, mais le blanc des yeux qui apparaît autour de la pupille et qui demande à la fois plus et qui refuse qu'on lui donne une fois pour toutes quoi que ce soit.
Eh bien, c'est une magnifique conclusion, j'imagine. Alors, c'est un grand moment auquel nous allons assister maintenant, puisque, évidemment, qui dit prix dit remise du prix, ainsi qu'un cadeau très particulier. Oh, c'est beau ! Et qu'on va expliquer.
Le Bosier.
Donc c'est effectivement, c'est presque une œuvre d'art aussi. C'est fait par les élèves du lycée Lavoisier de Brive. Donc voilà, c'est... Oui, exactement, en ébénisterie. Donc voilà, œuvre unique.
Ils sont là ou pas? Il y a des lycéens? Ah oui. Ah bah, vous leur direz, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, dis donc, mais il y a le livre vraiment là? Ah non, oui, d'accord. C'est magnifique. Merci beaucoup, et puis merci aux lycéens. Je leur enverrai peut-être un,
oui, volontiers,
un message.
Oui, oui, voilà. Oui, ils seront sensibles.
Ah.
Ils seront sensibles.
Merci à la ville de Brive, à ses lecteurs, sa médiathèque, à Suez.
Au milieu, René. Ça vous dérange pas.
Merci.
Merci.
En tout cas, en tout cas, merci beaucoup à tous. Si à votre tour vous souhaitez poser encore plein de questions bien difficiles à Guillaume, il se fera un plaisir de vous répondre sur son stand qui est juste en face et de signer son livre qu'il vous dédicacera également avec plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous pour votre attention et merci Guillaume.
Merci.
Gracias.